Vous savez qu'au pays de Descartes, on aime pouvoir tout expliquer. Et on dit, ben voilà, j'ai un esprit cartésien, j'ai besoin qu'on me démontre les choses. Tout ce qui ne tient pas devant la logique du raisonnement est faux. Ça, c'est l'esprit cartésien. Et je vais vous présenter juste, c'est en introduction, un raisonnement. Dieu pourrait-il créer une pierre qui soit si lourde qu'il ne puisse la porter, la soulever? Si oui, cela implique qu'il y a une chose que Dieu ne pourrait pas faire. Soulever cette pierre. Et si c'est non, cela implique également une chose que Dieu ne pourrait pas faire. Créer cette pierre. Dans les deux cas, il y a une chose que Dieu ne peut pas faire. Alors, s'il est des choses que Dieu ne peut pas faire, sa toute-puissance, son omnipotence présumée, ben, c'est apparemment menacé. Voilà un type de raisonnement cartésien. Dieu n'est pas omnipotent, je viens de le prouver. Alors, certains croyants ont cogité sur ce problème et conclut que Dieu ne pourrait pas créer une telle pierre, mais n'y verrait pas une véritable limite à sa puissance infinie. Si Dieu crée cette pierre, il en résulterait en fait une certaine contradiction logique. C'est donc impossible. Dieu ne peut pas faire l'impossible, mais cela ne l'amoindrit pas parce que l'impossible n'est pas réalisable. Et si l'impossible était réalisable, ce ne serait pas vraiment l'impossible. Voilà encore un raisonnement cartésien, mais par des chrétiens pour... Attends, moi je vais te répondre à ça, voilà. On dit qu'au pays de Descartes, on vit au pays de Descartes, mais on oublie que Descartes était croyant. Est probablement beaucoup moins soumis à cette logique dite cartésienne, logique humaine, que nous ne sommes aujourd'hui, même chrétiens. Et je vais vous citer juste quelques phrases qu'il écrivit dans une lettre. Les vérités mathématiques ont été établies de Dieu et en dépendent entièrement, aussi bien que tout le reste des créatures. On vous dira que si Dieu a établi ses vérités, il les pourrait changer comme un roi fait ses lois. À quoi il faut répondre que oui. Et généralement, nous pouvons bien assurer que Dieu peut faire tout ce que nous pouvons comprendre, mais non pas qu'il ne peut pas faire ce que nous ne pouvons pas comprendre. Car ce serait témérité de penser que notre imagination a autant d'étendue que sa puissance. C'est Descartes lui-même qui dit ça. Le prophète Ésaïe nous le dit autrement au chapitre 55. Ce que je pense n'a rien de commun avec ce que vous pensez, dit le Seigneur. Et votre façon d'agir, vos façons d'agir n'ont rien de commun avec les miennes. Il y a autant de distance entre ma façon d'agir et la vôtre, entre ce que je pense et ce que vous pensez, qu'entre le ciel et la terre. Le texte que j'ai choisi aujourd'hui se trouve dans Lévitique, chapitre 19, et on verra versets 1 et 2 et 17-18. Si j'ai pris cette introduction, c'est vous comprendrez pourquoi. Le Seigneur adressa la parole à Moïse. Parle à toute l'assemblée des fils d'Israël. Tu leur diras, soyez saints, car moi, le Seigneur, votre Dieu, je suis saint. Tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère, on passe au verset 17, mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon, et ainsi tu ne partageras pas son péché. Tu ne te vengeras pas, tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis le Seigneur. Être comme des dieux. C'est souvent ce que l'homme croit ou ce que l'homme cherche. Et peut-être, comme moi, l'avez-vous cherché un moment ou cru. Et le livre de la Genèse raconte bien sûr la faute d'Adam et Ève et dit que c'est bien là notre problème. Vous serez comme des dieux, leur dit le serpent, Satan. Ou plutôt, avait menti, le serpent devrait-on dire. Et cette perspective, ben, en fait, les a perdus. Mais voilà que c'est Dieu lui-même qui nous dit dans ce texte, et il dit ça au peuple d'Israël, mais il nous le dit aussi à travers d'autres passages dans le Nouveau Testament. Soyez saints comme moi, dit Dieu. Soyez saints car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. C'est un ordre que Dieu donne à son peuple. Mieux, c'est un appel. C'est une vocation. Appelée à être saint. C'est notre vocation. Donc, on ne se trompe peut-être pas quand on rêve d'être comme des dieux, avec un petit dé bien sûr. Et le psaume 8 nous dit que « Tu as voulu l'homme à peine moindre qu'un dieu, le couronnant de gloire et d'honneur. » Seulement, voilà, pour ressembler vraiment à Dieu, il faut avoir une idée juste de qui il est. Saint. C'est quoi? Les premiers chapitres de la Bible disent déjà que l'homme est fait pour ressembler à Dieu. Encore faut-il savoir ce consiste la ressemblance. En quoi consiste la ressemblance? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toute la terre et toutes les bêtes qui remuent sur la terre. Genèse chapitre 1, verset 26. La formule « faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il soumette » donne à penser qu'on serait de l'ordre de la royauté sur cette terre, de la domination, ceux qui dominent. Réellement, l'homme est créé pour être roi de la création. Mais le vocabulaire employé par l'auteur ici suggère plutôt une royauté, pas dans le sens de domination, mais une royauté dans le sens d'amour, dans le sens de respect. Un peu plus loin, dans le même livre de la Genèse, il emploie deux fois la même formule à l'identique. Le jour où Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Alors il y en a qui ont dit, oui, mais à la ressemblance de Dieu, c'est comme Dieu l'avait imaginé, à son image, à l'image qu'il avait fait dans sa tête. Pourtant, les mêmes mots sont employés une seconde fois en parlant des enfants d'Adam. Adam engendra un fils à sa ressemblance et à son image. Cette fois, on a bien l'impression que les mots image et ressemblance ont le sens qu'on leur donne d'habitude. Un fils ressemble à son père. Tel père, tel fils, dit-on. De la même manière, nous sommes créés à l'image de Dieu. Et enfin, cette phrase qu'on connaît bien, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. Ça nous donne une idée de ce qu'est Dieu. En regardant l'image dans laquelle il nous a créés, en comparant le couple et l'amour qui est censé vivre dans le couple, la communication qui est censée vivre dans cet amour, ça c'est Dieu. Nous sommes créés hommes, femmes, mâles et femelles à l'image de notre Dieu. Et il a fallu des siècles pour que le peuple d'Israël comprenne que les mots « sainteté » et « amour » sont des mots qui sont synonymes. Être saint, c'est être pleinement amour. Ça, on s'en souvient, c'est le mot de la vocation d'Ésaïe. Quand il reçoit cette vision au chapitre 6, et il nous raconte la vision dont il a bénéficié, comment, alors qu'il était dans le temple, il voit le trône de Dieu et son manteau qui prend toute l'espace du temple, et puis du temple de Jérusalem, il est ébloui et il entend les chérubins répéter « Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers ». Ce mot « Saint », ça signifie que Dieu, il est tout autre de ce que l'on peut imaginer, tout autre. Il y a un abîme qui nous sépare. Il y a un abîme qui sépare Dieu, qu'il a en vision, de lui-même. Et pourtant, Dieu lui-même franchit cet abîme. en lui donnant cette vision de lui-même. Il le franchit. Et quand il nous invite à lui ressembler, il franchit cet abîme. Et il nous en rend capable de lui ressembler, grâce à lui, bien sûr, ou on peut le dire, dans sa grâce. On a parlé de Jésus-Christ, qui vient jusqu'à nous, qui déchire le voile dans sa mort et puis dans sa résurrection. Les deux derniers versets du passage de Lévitique, tu n'auras aucune pensée de haine contre ton frère. C'est ça, être saint. Mais tu n'hésiteras pas à réprimander ton compagnon et ainsi tu ne partageras pas son péché. Tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça, être saint. Être mis à part dans l'amour. Soyez saints comme je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Concrètement, cela veut dire qu'on n'aura pas aucune pensée de haine, qu'on ne se vengera pas. Parce que Dieu ne connaît ni haine, ni vengeance, ni rancune. Et c'est justement pour ça qu'il n'est qu'amour. Il est le tout autre. Et c'est seulement petit à petit que les prophètes ont compris et feront comprendre au peuple que ressembler au Dieu saint, c'est tout simplement développer ses capacités d'amour. Et Jésus va exalter cela dans le sermon sur la montagne, au chapitre 5, et je dirai les versets 38 au 48 qui sont les plus difficiles à entendre d'une certaine manière. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent, eh bien moi je vous dis de ne pas riposter aux méchants. Mais si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Et si quelqu'un veut te faire un procès et prendre ta tunique, laisse-lui ton manteau. Si quelqu'un te réquisitionne pour faire 1000 pas, fais-en 2000 avec lui. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d'être vraiment le fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever le soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et sur les injustes. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Les publicains eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Et si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens eux-mêmes n'en font-ils pas autant? Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. En fait, si on regarde bien ce texte, on dit c'est pas possible. C'est irréalisable. En fait, ce texte, c'est une leçon qui nous apprend des choses sur le cœur de Dieu, pas sur nous-mêmes. Il nous montre la distance qui nous sépare de Dieu, le tout autre. Voilà le cœur de Dieu. Le cœur de Dieu, c'est ça. Et on voit ça partout dans l'Ancien Testament, avec le peuple, où Dieu avait déjà dit, et il s'appelle Dieu Père, qu'il est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Exode 34, 6. Et tout cela, l'Ancien Testament l'avait déjà dit, mais nous avons la tête dure. L'homme, en général, a la tête dure. Et a grand mal à croire à un Dieu qui ne soit qu'amour. Jésus le redit de manière imagée, Dieu fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et tomber la pluie sur les justes et les injustes. Et si je comprends bien, ce n'est pas une leçon de morale que nous donne Jésus ici. C'est beaucoup plus profond que cela. Dieu nous charge d'une mission. On est créé pour sa gloire, on l'a chanté. On est créé pour sa gloire, mais on est créé pour une mission. Celle de refléter l'image de Dieu dans ce monde. Nous sommes le reflet de l'image de Dieu. Vous donc soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait, nous dit Jésus. Si je comprends encore bien, croire que Dieu est amour, ce n'est pas un chemin de facilité. Croire que Dieu est amour, cela veut dire que il y a des jours qui seront extrêmement difficiles. des jours qui seront extrêmement difficiles dans le registre du don et dans le registre du pardon, où il y aura des renoncements à faire à nous-mêmes, à nos propres désirs, à nos propres attentes. Donne à qui te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter. Jusque-là, l'Ancien Testament avait cherché à développer l'amour du prochain, du frère de race et de religion, et même de l'immigré qui partageait le même toit. Il y avait beaucoup de lois pour cela. Mais cette fois, Jésus, il va abolir toutes les frontières. Et le sens de la phrase, c'est « Donne à quiconque te demande, ne te détourne pas de celui qui veut t'emprunter, sous-entendu, quel qu'il soit. » Et on a dans la parabole du bon samaritain l'exigence de Jésus. L'exigence de Jésus, c'est qu'il n'y a pas, il y a personne qui ne démérite pas de cela. Tous en ont besoin. Il ne fait exception de personne. Alors tout cela, ça paraît fou, ça paraît déraisonnable, ça paraît démesuré, ça paraît impossible. Et si on est cartésien, on dit, bon, allez, redescends sur terre un petit peu, quoi. Hein? Faut vivre la vraie vie, quoi. Tu sais pas ce que c'est que la vraie vie. Tu sais pas ce que c'est, toi, quand on t'a fait du mal. Tu sais pas ce que c'est que devoir qu'on t'exige le pardon. Non, ce pardon-là, je ne peux pas le donner. Parce que tu n'as jamais eu aussi mal que j'ai eu mal. Et pourtant, c'est exactement cela que Dieu a fait avec nous. Que Dieu a fait avec toi. N'a cessé de faire avec son peuple. Alors ça ne veut pas dire ça qu'on est chrétien, crétin, comme on l'a dit souvent. Ça ne veut pas dire qu'on a perdu toute capacité de jugement sur ce qui est bon ou sur ce qui est mauvais. Hein, tout le monde n'est pas bon et gentil. Tu n'auras aucune pensée de haine. Mais tu n'hésiteras pas à faire des réprimandes. Lévitique. Alors, réprimander à bon escient, c'est un art bien difficile. Et pour ceux qui sont parents ou éducateurs, on sait que c'est pas facile. Mais on sait que c'est nécessaire. Donner un cadre. Et pourtant, cela aussi, c'est de l'amour. Ça aussi, c'est être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Ça aussi, c'est être saint comme il est saint. C'est vouloir le bien de l'autre, même au prix de se voir rejeté, peut-être. Et on sait que la critique positive par amour fait grandir celui qui la reçoit. Et on sait que pour avoir oser réprimander quelqu'un, ben on a évité qu'il tombe dans un gouffre. C'est nécessaire, dans l'amour. Dieu est patient envers nous. Et ce n'est pas en un jour que notre attitude va changer. C'est quelque chose qu'on appelle le chemin de la sanctification. C'est un chemin, un cheminement. Dieu a travaillé à travers son peuple, et de même, il travaille à travers nos cœurs. Pour qu'on soit meilleur tous les jours, pas comme hier, mais mieux qu'hier, qu'on apprenne de nos échecs. Voilà donc la royauté à laquelle nous sommes invités. Et quand nous rêvons d'être comme des dieux, on pense spontanément domination, puissance, et surtout la puissance nécessaire pour vaincre la maladie et la mort. Ça, ce serait juste, quoi. Vaincre la maladie et la mort. Et tandis que Dieu, lui, nous invite à lui ressembler. Il nous appelle à la sainteté, à sa sainteté qui n'a rien à voir avec une quelconque domination. Rien. Une sainteté qui n'est qu'amour et douceur, soumission, humilité. Alors cela nous paraît bien souvent difficile. Mais là encore, peut-être sommes-nous des hommes qui ont trop peu de foi encore. Et c'est celle-là qui doit grandir. Paul dit, n'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu en 1 Corinthiens 3, 16, 23. Et que l'Esprit de Dieu, ben, il habite en vous. C'est une réalité spirituelle maintenant. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré. Et ce temple, c'est vous. Que personne ne s'y trompe. Si quelqu'un parmi vous pense être un sage à la manière d'ici-bas, mais qu'il devienne fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie devant Dieu. L'Écriture le dit, celui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. C'est lui qui prend les sages au piège de leur propre habileté. Elle dit encore cette parole, le Seigneur connaît les raisonnements des sages. Ce n'est que du vent. Ainsi, il ne faut pas mettre son orgueil en des hommes dont on se réclame. Car tout vous appartient, Paul, Apollos et Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et l'avenir. Tout est à vous, mais vous, vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. Voilà un enseignement. N'oubliez pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Nous sommes chacun d'entre nous le temple de Dieu. Nous sommes chacun d'entre nous le lieu où habite l'Esprit de Dieu. Nous et l'Église tout entière, un temple d'amour. C'est ce que décrit Paul. Malheureusement, pour être honnête, on doit reconnaître que ce n'est pas encore vraiment une réalité visible dans la vie de tous les jours, dans la vie de l'Église. Et il nous arrive de faire mentir Paul quand il dit ça. Mais il ne ment pas, parce que c'est une réalité spirituelle. C'est juste qu'elle n'est pas encore visible. On ne l'a pas montré. On n'a pas permis que ça se voie. Et il le sait bien, mais justement, il nous rappelle notre vocation. Parce que, en tant qu'humains, nous avons une vocation, c'est celle d'oublier. On le disait vendredi soir. On oublie. On voit un miracle, un jour, on dit « c'est extraordinaire ». Et le lendemain, on se met à douter de l'existence de Dieu même. Est-ce qu'il existe vraiment ? N'oubliez pas, dans la Bible, dès l'Ancien Testament, elle signale toujours quelque chose de fondamental. N'oubliez pas, quelque chose de vital. Garde-toi bien d'oublier. Vous savez, les Juifs, ils mettaient des trucs sur leur... Vous voyez les petites boîtes qu'ils mettent sur leur front, là? C'est pour pas oublier. Les trucs qu'ils mettent j'ai oublié les phylactères, mais à l'entrée de la maison de bénédiction, c'est pour pas oublier qu'il y a une bénédiction sur cette maison. C'est pour jamais oublier cette parole, parce que cette parole, il faut pas qu'on l'oublie. Faut la garder. Garde-toi bien d'oublier. Répète souvent les paroles du Seigneur. Et il le dit, répète-le de génération en génération. Raconte, dis-le. La foi, c'est la mémoire de l'œuvre de Dieu. Si le peuple d'Israël oublie son Dieu, il se perd à suivre de fausses idoles. Si nous oublions la parole, nous allons suivre des fausses idoles. Gardez-vous bien d'oublier l'alliance que le Seigneur, votre Dieu, a conclue avec vous et de vous faire une idole. Deutéronome 4, 23. Toujours dans la Bible, n'oublie pas, c'est pour nous mettre en garde contre ce qui serait une fausse piste, un chemin de mort. La mémoire, c'est la sécurité du croyant. Alors, j'ai pas une bonne mémoire. Non, c'est pas celle-là. C'est pas connaître les versets par cœur. La mémoire, c'est toujours repenser ce que Dieu a fait dans ma vie. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux, et tu verras, en adorant, combien le nombre en est grand. Lisez la parole tous les jours, méditez-la, et priez sans cesse pour ne pas l'oublier. Lisez la parole tous les jours, méditez-la et priez sans cesse pour ne pas les oublier. Lisez la parole tous les jours, méditez-la et priez sans cesse pour ne pas oublier. Alors pourquoi est-ce si important de ne pas oublier que nous sommes appelés à être des temples d'amour? Parce que le projet de Dieu d'amour ne peut se réaliser qu'avec nous. C'est ça qui est extraordinaire. ce projet-là, Dieu compte sur nous. On n'a pas d'autre raison d'être. Si vous cherchez une raison d'être, ben la raison d'être, c'est d'être amour. Et Dieu vous a choisi pour être l'amour dans ce monde. Il a fait de nous un temple d'amour. Et alors cela peut paraître parfois prétentieux d'oser dire, ben je suis le temple du Saint-Esprit. D'oser dire que Dieu compte sur moi pour répandre l'amour en ce monde. Et pourtant, quand Jésus dit à ses apôtres, après avoir... Les apôtres sont là et il dit, mais ils ont faim, Seigneur, cette foule a faim. Ben, il dit, donnez-leur vous-même à manger. Il multipliera les pains et les poissons ensuite. Mais donnez-leur vous-même à manger. C'est bien ce que cela veut dire. Il compte sur nous. Nous sommes les temples d'amour construits sur toute la surface de la terre pour répandre l'amour de Dieu. Partout. Tout à l'heure, je voyais une jeune femme dans le hall. Je l'ai vue acheter de la drogue juste là. Et elle était là, dans le hall d'entrée, à prendre des prospectus. Et je me suis dit, ah, si les dealers, ils venaient faire leur petit marché ici, c'est ce qui se passe, hein. Voilà, et puis tout à coup, ben, ils ramasseraient la parole de Dieu, puis ils la liraient, et ça toucherait leur cœur, et puis un jour, ils rentreraient ici. Voilà. Ça, c'est... Je crois que c'est possible. Je crois que c'est possible. Je l'ai invitée à rentrer. Elle a préféré rester dans le hall. Il serait intéressant également de se demander chacun pour soi et aussi en Église, quelles sont les colonnes qui soutiennent ce que nous sommes? Est-ce que c'est Paul, Apollos, nos raisonnements, nos doctrines d'Église? Ou est-ce que c'est Jésus-Christ? Certains pensent que le raisonnement, ce type de raisonnement est une folie, et si c'est une folie, sachez que c'est une sagesse pour Dieu. La sagesse de ce monde est folie devant Dieu. Le Seigneur connaît les raisonnements des sages, ce n'est que du vent. Que du vent. En revanche, ceux qui nous ont transmis la foi sont des colonnes. Tous ceux qui vous ont transmis la foi, ce sont des colonnes. Paul, Apollos ou Pierre sont cités, ce sont des colonnes, certes, mais ils ne sont pas le centre. Ils ne sont pas le centre. Dès le début de sa lettre, Paul avait très fermement remis les choses en place. Il dit, moi, je suis l'apôtre, si grand soit-il, ben, l'apôtre, c'est qu'un jardinier. Dans ce monde. C'est un petit peu comme ça qu'il se présente. Les véritables apôtres sont ceux qui ne nous retiennent pas, ne nous captent pas, mais laissent Jésus-Christ devant. Tout vous appartient, Paul et Apollos et Pierre, le monde et la vie et la mort, le présent et l'avenir, tout est à vous, mais vous êtes au Christ et le Christ est à Dieu. On est bien là, l'image d'une construction. Et cette construction, ce grand projet de Dieu, c'est de réunir l'univers entier. L'univers entier. Le passé, l'avenir. Tout l'univers, les étoiles. Tout ce que nous sommes. Tout en Jésus-Christ. Il est le centre. Si vous lisez, on a lu Éphésiens au chapitre 1, c'est ce qu'il dit. Tout ramené en Jésus-Christ. Tout est ramené là. En Jésus-Christ. Alors on est bien loin de nos raisonnements humains et pourtant Paul nous dit c'est la seule sagesse. Jésus-Christ. Et l'abîme qui sépare nos pensées de celles de Dieu est telle que si nous nous laissons gagner par les raisonnements humains, cela risque de nous ébranler et de détruire le temps parce que le vent peut devenir une tempête et détruire ses colonnes. Alors il ne faut pas rentrer dans ces raisonnements. Le Seigneur connaît les raisonnements des sages. Ce n'est que du vent. Laissons ces raisonnements là où ils sont. Lisez sa parole tous les jours, méditez-la et priez sans cesse pour ne pas oublier. Mais ça, c'est pas une... Faut le faire. Faut le faire, on oublie. Si on ne fait pas un jour, on oublie qui nous sommes vraiment. Ne pas oublier que vous êtes saints, mis à part pour accomplir les œuvres de l'amour de Dieu, que Dieu a préparé d'avance, pas pour tout, pour chacun d'entre nous, il a préparé quelque chose. Des œuvres pour chaque jour. Ne pas oublier que nous sommes déjà sauvés par le sacrifice de Jésus-Christ et qu'il n'y a rien que nous puissions faire pour recevoir ce salut que de dire « Oui, je crois à ton sacrifice pour moi, Seigneur. » Ne pas oublier que tout ce dont nous avons besoin, eh ben nous l'avons déjà. Je vais terminer juste avec la lecture du psaume 103. Une partie, tout du moins. Je veux dire merci au Seigneur de tout mon cœur. Je veux remercier l'unique vrai Dieu. Oui, je veux remercier le Seigneur sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes, guérit toutes mes maladies, m'arrache à la tombe, me comble de tendresse et de bonté. Il remplit ma vie de bonheur. Il me donne une nouvelle jeunesse. Je suis comme l'aigle qui prend son vol. Le Seigneur intervient pour redresser les torts. Il rend justice à tous ceux qu'on opprime. Il a fait connaître ses plans à Moïse et ses exploits au peuple d'Israël. Le Seigneur est compatissant et bienveillant, patient et d'une immense bonté. Il ne fait pas constamment des reproches, il ne garde pas éternellement rancune, et il ne nous a pas punis comme nous l'aurions mérité. Il ne nous a pas fait payer le prix de nos fautes. Sa bonté pour ses fidèles monte aussi haut que le ciel au-dessus de la terre. Il met entre nous et nos mauvaises actions autant de distance qu'entre l'Est et l'Ouest. Le Seigneur aime ses fidèles comme un père aime ses enfants. Il sait bien, lui, de quoi nous sommes faits, d'un peu de poussière. Il ne l'oublie pas.